Victor Hugo, préface des poésies de Charles Doval, lettre aux éditeurs. Vous me demandez, messieurs, ce que je pense des poésies de M. Doval, dont vous avez bien voulu m'envoyer le manuscrit, et vous paraissez croire que l'expression de mon opinion personnelle ajouterait quelque intérêt à cette publication déjà si intéressante par elle-même. C'est de votre part, messieurs, une erreur obligeante pour moi. Mais c'est une erreur. Ma voix est loin d'avoir l'autorité que vous semblez lui supposer. Il faut, pour agir puissamment sur les intelligences, deux choses. Génie et conviction. Je sais qu'une de ces deux choses me manque. Et en conscience, ce n'est pas la conviction. Ce n'est donc pas ma parole qui, par son influence ou son retentissement, pourra contribuer en rien au succès de ses poésies. D'ailleurs, malheureusement pour vous qui l'avez connu, et pour moi qui aurais pu le connaître, M. Doval n'a besoin maintenant de qui que ce soit pour réussir. En littérature, le plus sûr moyen d'avoir raison, c'est d'être mort. N'insistez donc pas, messieurs, pour avoir de moi, sur les poésies de M. Doval, une opinion qui vaille la peine d'être controversée. Et puis, ce manuscrit du poète, tué à 20 ans, réveille de si douloureux souvenirs. Tant d'émotions se soulèvent en foule sous chacune de ces pages inachevées. On est saisi d'une si profonde pitié au milieu de ces odes, de ces ballades orphelines, de ces chansons toutes saignantes encore. Quelle critique faire, après une si poignante lecture? Comment raisonner ce qu'on a senti? Quelle tâche impossible pour nous autres surtout, critiques peu déterminés, simples hommes d'art et de poésie. Aussi, messieurs, après avoir lu ce manuscrit, n'est-ce pas de l'opinion, mais de l'impression qui m'en reste que je vous entretiendrai volontiers. Et d'abord, messieurs, ce qui frappe en commençant cette lecture, ce qui frappe en la terminant, c'est que tout dans ce livre d'un poète si fatalement prédestiné, tout est grâce, tendresse, fraîcheur, douceur harmonieuse, suave et molle rêverie. Un grand mouvement, un vaste progrès avec lequel sympathisait complètement M. Doval, s'accomplit dans l'art. Ce mouvement n'est qu'une conséquence naturelle, qu'un corollaire immédiat de notre grand mouvement social de 1789. C'est le principe de liberté qui, après s'être établi dans l'État et y avoir changé la face de toute chose, poursuit sa marche, passe du monde matériel au monde intellectuel et vient renouveler l'art comme il a renouvelé la société. Cette régénération, comme l'autre, est générale, universelle, irrésistible. Elle s'adresse à tout, réédifie tout, refait à la fois l'ensemble et le détail, rayonne en tous sens et chemine en toute voie. Or, pour n'envisager ici que cette particularité, par cela même qu'elle est complète, la révolution de l'art a ses cauchemars, comme la révolution politique a eu ses échafauds. Cela est fatal. Il faut les uns après les madrigaux de Dora, comme il fallait les autres après les petits soupers de Louis XV. Les esprits, affadis par la comédie en panier et l'élégie en pleureuse, avaient besoin de secousses, et de secousses fortes. Cette soif d'émotions violentes, de beaux et sombres génies, sont venus de nos jours la satisfaire. Et il ne faut pas en vouloir d'avoir jeté dans vos âmes tant de sinistres imaginations, tant de rêves horribles, tant de visions sanglantes. Qu'y pouvait-il faire? Ces hommes qui vous paraissent si fantasques et si désordonnés ont obéi à une loi de leur nature et de leur siècle. Leur littérature, si capricieuse qu'elle semble et qu'elle soit, n'est pas un des résultats les moins nécessaires du principe de liberté qui désormais gouverne et régit tout d'en haut, même le génie. C'est de la fantaisie, soit, mais il y a de la logique dans cette fantaisie. Et puis, le grand malheur après tout. Bonnes gens, soyons tranquilles. Pour avoir vu 93, ne nous effrayons pas tant de la terreur en fait de révolution littéraire. En conscience, tout satanique qu'est le premier, et tout frénétique qu'est le second, Byron et Mathurin me font moins peur que Marat et Robespierre. Si sérieux que l'on soit, messieurs, il est difficile de ne pas sourire quelquefois en répondant aux objections que l'ancien régime littéraire emprunte à l'ancien régime politique pour combattre toutes les tentatives de la liberté dans l'art. Certes, après les catastrophes qui, depuis 40 ans, ont ensanglanté la société et décimé la famille, après une puissante révolution qui a fait des places de grève dans toutes nos villes et des champs de bataille dans toute l'Europe, ce qu'il y a de triste, d'amer, de sanglant dans les esprits et par conséquent dans la poésie, n'a besoin ni d'être expliqué ni d'être justifié. Sans doute, la contemplation des 40 dernières années de notre histoire, la liberté d'un grand peuple qui éclot géante et écrase une Bastille à son premier pas, la marche de cette haute république qui va les pieds dans le sang et la tête dans la gloire, sans doute ce spectacle, quand la raison nous montre qu'après tout, et enfin, c'est un progrès et un bien, ne doit pas inspirer moins de joie que de tristesse. Mais s'il nous réjouit par notre côté divin, il nous déchire par notre côté humain, et notre joie même y est triste. De là, pour longtemps, de sombres visions dans les imaginations et un deuil profond mêlé de fierté et d'orgueil dans la poésie. Heureux pour lui-même le poète qui, né avec le goût des choses fraîches et douces, aura su isoler son âme de toutes ses impressions douloureuses, et dans cette atmosphère flamboyante et sombre qui rougit l'horizon longtemps encore après une révolution, aura conservé rayonnant et pur son petit monde de fleurs, de rosées et de soleil. Monsieur Doval a eu ce bonheur d'autant plus remarquable, d'autant plus étrange chez lui, qui devait finir d'une telle fin, et interrompre sitôt sa chanson à peine commencée. Il semblerait d'abord qu'à défaut de douloureux souvenirs, on rencontrera dans son livre quelques pressentiments vagues et sinistres. Non, rien de sombre, rien d'amer, rien de fatal. Bien au contraire, une poésie toute jeune, enfantine parfois. Tantôt les désirs de chérubin, tantôt une sorte de nonchalance créole. Un vers à gracieuse allure, trop peu métrique, trop peu rythmique il est vrai, mais toujours plein d'une harmonie plutôt naturelle que musicale. La joie, la volupté, l'amour, la femme surtout, la femme divinisée, la femme faite muse, et puis partout des fleurs, des fêtes, le printemps, le matin, la jeunesse. Voilà ce qu'on trouve dans ce portefeuille d'élégies déchirées par une balle de pistolet. Ou si quelquefois cette douce muse se voile de mélancolie, c'est comme dans le premier chagrin, un accent confus, indistinct, presque inarticulé, à peine un soupir dans les feuilles de l'arbre, à peine une ride à la face transparente du lac, à peine une blanche nuée dans le ciel bleu. Si même, comme dans la touchante personnification du sylphe, l'idée de la mort se présente au poète, elle est si charmante et si suave, si loin de ce que sera la réalité, que les larmes en viennent aux yeux. Oh, respectez mes jeux et ma faiblesse, vous qui savez le secret de mon cœur. Oh, laissez-moi pour unique richesse de l'eau dans une fleur. L'air frais du soir, au bois, une humble couche, un arbre vert pour me garder du jour, le sylphe après ne voudra qu'une bouche pour y mourir d'amour. Certes, cela ne ressemble guère à un pressentiment. Il me semble, messieurs, que cette grâce, cette harmonie, cette joie qui s'épanouit à tous les vers de M. Doval donne à cette lecture un charme et un intérêt singulier. André Chénier, qui est mort bien jeune également, et qui pourtant avait 10 ans de plus que votre poète, André Chénier a laissé aussi un livre de douces et folles élégies. Comme il dit lui-même, où se rencontrent bien çà et là quelques yambes ardents, fruit de ses 30 ans et tout rouge des réverbérations de la lave révolutionnaire, mais dans lequel domine, ainsi que dans le livre charmant de votre ami, la grâce, l'amour, la volupté. Aussi, Quiconque lira le recueil de M. Doval sera-t-il longtemps poursuivi par la jeune et pâle figure de ce poète, souriant comme André Chénier et sanglant comme lui? Et puis, messieurs, cette réflexion me vient en terminant. Dans ce moment de mêlée et de tourmente littéraire, qui faut-il plaindre? Ceux qui meurent ou ceux qui combattent? Sans doute, c'est pitié de voir un poète de 20 ans qui s'en va, une lyre qui se brise, un avenir qui s'évanouit. Mais n'est-ce pas quelque chose aussi que le repos? N'est-il pas permis à ceux autour desquels s'amassent incessamment calomnies, injures, haines, jalousies, sourdes menées, basses trahisons, hommes loyaux auxquels on fait une guerre déloyale, hommes dévoués qui ne voudraient enfin que doter le pays d'une liberté de plus, celle de l'art, celle de l'intelligence, hommes laborieux qui poursuivent paisiblement leur œuvre de conscience en proie d'un côté à de viles machinations de censure et de police, en but de l'autre, trop souvent, à l'ingratitude des esprits mêmes pour lesquels ils travaillent. Ne leur est-il pas permis de retourner quelquefois la tête avec envie vers ceux qui sont tombés derrière eux et qui dorment dans le tombeau? In video, disait Luther, dans le cimetière de Worms. In video, quia quiescunt. Qu'importe toutefois, jeunes gens, ayez bon courage. Si rude qu'on nous veuille faire le présent, l'avenir sera beau. Le romantisme, tant de fois mal défini, naît à tout prendre, et c'est là sa définition réelle que le libéralisme en littérature. Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons esprits, et le nombre en est grand. Et bientôt, car l'œuvre est déjà bien avancée, le libéralisme littéraire ne sera pas moins populaire que le libéralisme politique. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et logiques. Voilà la double bannière qui rallie, à bien peu d'intelligence près, lesquelles s'éclaireront, toute la jeunesse si forte et si patiente d'aujourd'hui, puis avec la jeunesse et à sa tête l'élite de la génération qui nous a précédés, tous ces sages vieillards qui, après le premier moment de défiance et d'examen, ont reconnu que ce que font leurs fils est une conséquence de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, et que la liberté littéraire est fille de la liberté politique. Ce principe est celui du siècle et prévaudra. Les ultras de tout genre, classiques ou monarchiques, auront beau se prêter secours pour refaire l'ancien régime de toutes pièces, société et littérature, chaque progrès du pays, chaque développement des intelligences, chaque pas de la liberté fera crouler tout ce qu'ils auront échafaudé. Et en définitive, leurs efforts de réaction auront été utiles. En révolution, tout mouvement fait avancer. La vérité et la liberté ont cela d'excellent que tout ce qu'elles ont fait pour elles, et tout ce qu'on fait contre elles les sert également. Or, après tant de grandes choses que nos pères ont faites et que nous avons vues, nous voilà sortis de la vieille forme sociale. Comment ne sortirions-nous pas de la vieille forme poétique? À peuple nouveau, art nouveau. Tout en admirant la littérature de Louis XIV, si bien adaptée à sa monarchie, elle saura bien avoir sa littérature propre et personnelle et nationale, cette France actuelle, cette France du XIXe siècle, à qui Mirabeau a fait sa liberté et Napoléon sa puissance. J'ai l'honneur d'être bien parfaitement, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, Victor Hugo.